Le premier livre de Samuel. Vous savez que Samuel est un enfant d'une femme qui ne savait pas avoir d'enfant. C'est une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. En Belgique, c'est une erreur de français, on dit savait. Ça n'est pas, c'est pas juste, c'est pouvait, ne pouvait pas avoir un enfant. Elle l'a beaucoup prié, elle a été bénie, et elle a eu cet enfant qu'elle a amené à Silo, là où il y a la tente, l'arche de l'alliance, le culte, pour servir Dieu. Tout près d'un vieux papy, un prêtre, et d'autres prêtres, mais dans, parmi les prêtres, il y avait les deux fils, Ophni et Phinéas, les deux fils d'Élie, qui se conduisait très mal. Il piquait de la viande dans les holocaustes, dans les sacrifices faits à Dieu, qui n'étaient pas cuits. Or, c'est grave, dans le rite de la religion juive. Et la deuxième chose, il draguait les femmes qui venaient adorer Dieu. Et il y en avait qui acceptaient, évidemment. Alors, le petit garçon a grandi et puis il est devenu prophète. C'était un très grand prophète en Israël. C'est lui qui a fait démarrer vraiment la dynastie des rois en Israël. Dieu s'est servi de lui pour choisir David. Et vous savez que c'est de David que vient la royauté de Christ un jour. Toutes les promesses sur le royaume de Dieu avec Jésus-Christ sur la terre. Donc Samuel a une grande place. Et il en avait confiance. Il avait confiance en Dieu. Parce que tout petit, déjà, Dieu l'appelait pendant la nuit. Il a appris à répondre. Il a appris à avoir un dialogue avec Dieu. Une relation vivante avec Dieu. Il est extrêmement important de ne pas avoir une relation imaginaire avec Dieu. Une relation où on fait de l'autosuggestion. Une relation avec Dieu qui se base sur ce que le ressenti, ce qu'on appelle l'induction, ou sur des visions, ou des trucs pareils. Il faut réellement, Dieu vivant, Dieu parle par son Saint-Esprit. Il faut lire la Bible régulièrement, et à un moment donné, vous apprenez à comprendre que Dieu vous parle. Comprenez qu'il est en train de communiquer avec vous, et que ça ne vient pas de vous. Et ça n'a rien à voir avec les visions, ou des songes, ou des médiums, ou des gens que vous avez été voir, etc. C'est très différent. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu engendre le désir de sainteté, engendre le désir de sagesse et le désir de repentance, d'humilité et de repentance. Les vrais fruits de la parole divine qui sortent de la bouche de Dieu, c'est la conversion, c'est la repentance et la sainteté et l'amitié avec Dieu. À un moment donné, on n'est plus dans la crainte avec Dieu. On est dans une relation d'amour, de réciprocité avec Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose de précieux. Et si parmi vous, il y en a encore qui ne l'ont pas, on peut prier pour eux. On peut venir prier avec vous. Le samedi, ici, on prie. On est à quelques-uns à prier le samedi. Vous pouvez venir. Évidemment, on ne vous imposera pas de venir. Mais c'est extrêmement important que l'action du Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos vies, dans nos pensées. Donc Samuel est devenu prophète par l'action du Tout-Puissant, du Saint-Esprit. C'est pas parce que c'était un phénomène, un gars sympa, super, etc. Ça n'a rien à voir. Ok ? Donc ça c'est un premier point. Et donc, quand Samuel grandit, je prenais le chapitre 3, verset 19. Chapitre 3, verset 19, pour vous qu'elle ferme, parce que moi, les courants d'air, c'est pas ma joie. À cette époque-ci, méfiez-vous toujours des courants d'air. Mal de gorge, bronchite, boum, paf. Vous voyez le soleil, vous roulez avec les fenêtres des voitures ouvertes, tac. 2 heures après, vous vous demandez pourquoi vous êtes malade. Ça, c'est toutes des imprudences qu'on fait au printemps, en automne. Et quand, après un certain âge, des fois, ça tombe. C'est lourd. Une bronchite abîme le cœur. ça abîme le cœur. Chaque fois, le cœur baisse en puissance, en tonus. Il faut faire attention, il faut être prudent. Mais parfois même chez des jeunes qui ont une constitution plus fragile que d'autres. Donc, premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait. Mais ce n'est pas seulement en taille, hein. C'est en vie spirituelle. C'est ça qui est important. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, ça. Et c'est déjà chez un enfant, un adolescent. Vous vous rendez compte que c'est un... Il a l'esprit de responsabilité vis-à-vis de Dieu. Un esprit d'amour et d'écoute. On souhaite ça à tous les enfants qui viennent ici à l'école et qu'ils apprennent. Non pas qu'ils soient influencés, mais tout d'un coup, c'est Dieu qui fait le cadeau. À travers l'enseignement, le témoignage des institutrices. C'est Dieu qui fait le cadeau de cette vie. Et pour nous aussi. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, Dan, pensez par exemple à la région du Golan et tout ça, hein, du mont Hermon, c'est encore en Israël, tout ça, et jusqu'à Beersheba, c'est dans le sud, hein, c'est dans le désert du Negev, reconnu, à la limite du désert du Negev, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Prophète, Nabi, c'est celui qui apporte la parole de la part de Dieu. Hein, le Nabi. Et naturellement, même quelqu'un comme David qui chantait avec la harpe, etc., et même Asaph, c'est Nabi, c'est prophétisé. Ils sortaient de leur bouche et de leur petit esprit humain, pas plus grand que le nôtre, une action de l'Esprit Saint, venant de Dieu pour révéler la grandeur de Dieu. Alors, l'Éternel continue à apparaître dans Silo. Donc il apparaît à qui? Bien sûr, à Samuel. L'Éternel se révèle à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Donc il apparaît par la parole de l'Éternel. Longtemps j'ai été refoulé par une famille à Arlon où je visitais et puis c'était compliqué. Et ils n'en voulaient pas, ils étaient traditionnellement catholiques et bien installés dans leur argent et dans leur truc... Ils préfèrent aller voir des médiums, des voyants, tout ça, que de s'intéresser à la Bible et de m'écouter. Pourtant, j'avais essayé plusieurs fois de faire des études bibliques. Enfin, je continue à prier. 17 ans après, on m'appelle voilà. Il y avait tellement de manifestations démoniaques dans toute la famille que là, c'était carpette. Il fallait crier au secours. Et Dieu est patient. Vous savez, Dieu sait à quel point quand on va mettre les mains dans les engrenages des mauvaises voies, on va le payer un jour. Comme disait le proverbe, le verset dans Galates, ce qu'on sème, on le moissonne. Ben, effectivement, ce n'était pas marrant du tout. Donc j'ai dû aller là-bas, prier avec eux, etc., présenter Jésus-Christ, et puis prier. Pour que le chat ne parle plus, pour que les chaises et les tables ne bougent plus, et toutes sortes de trucs. Qu'on ne passe pas la main sur eux dans le lit, et des trucs pareils. Alors pratiquement, ce qui se passe, ils avaient obtenu ces bénédictions. Alors, la dame me dit, mais comment ça se fait que vous, quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous l'obtenez? Et, écoutez, je ne suis pas meilleur que vous, mais ça fait longtemps que j'ai appris à demander à Dieu quelque chose, ça me prend tout sérieux. Puis elle me dit, comment ça se fait que Dieu vous parle? Je lis la Bible, il me parle. Et elle aurait bien voulu que je dise que j'avais des visions et des tas de trucs. Ça se peut qu'il y a eu des choses dans ma vie, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Dieu me parle tous les jours ici. Je ne veux pas aller faire le malin en disant que j'ai eu des visions et des trucs pareils. Pour qu'on me court après tout le temps et qu'on se trompe, c'est Dieu qu'on honore, qu'on doit écouter. Et donc, effectivement, aujourd'hui encore, il peut y avoir des chrétiens qui aient un rôle, comme Samuel, à travers le monde. Et les chrétiens qui soient dirigés par Dieu et qui servent Dieu. Hein? Vous avez vu dimanche passé... Les trois personnes qui venaient d'Ukraine, là, qui ont témoigné, c'est formidable. Ils ont une relation vivante avec Dieu, ça c'est clair, non? Moi, ça, même je serais aveugle, les yeux crevés, je le sais. Hein? J'ai vu ça au Bénin, j'ai vu ça en Bulgarie, il y a vraiment des gens, tout de suite, en les écoutant, je sais qu'on est frères en Christ, sœurs en Christ. Ça c'est clair, c'est incontournable. Ce qui n'est pas vrai pour beaucoup. Alors, il y a encore des rallonges à mettre souvent, pour être purifié, nettoyé, hein, et arriver à ce stade. Mais Dieu est grand, il peut le faire. Il faut accepter de se laisser faire par la grâce de Dieu. Comme a annoncé tout à l'heure Vincent, dans tout ce qu'il a dit, c'est ça. C'est d'être sous la grâce. Alors, évidemment, au chapitre 4 de Samuel, eh bien, il y a un gros problème pour Israël. Eh bien, il y a des gros problèmes pour nous aussi, dans notre société et dans nos vies. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins. Philistin a été traduit ensuite par l'Empire romain quand on a tout rasé avec Titus, et puis ensuite encore en 126 avec la révolte de Bar-Kochba. Hein, tout a été rasé, mais vraiment anéanti, deux fois, par Titus et puis plus tard, je ne me rappelle plus le nom de l'empereur, Vespasien, peut-être, je ne sais plus. Mais pratiquement, ça n'a pas été du gâteau. Hein. Ils ont tout fait pour qu'il n'y ait plus d'Israël en rien. Et ils ont appelé cette terre Palestina, la terre des Philistins. Palestiniens, Palestina, c'est les Philistins. Et ce n'était plus un Israël. C'est du décapage total. C'était ça que voulaient les puissances démoniaques de l'époque et encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent encore qu'Israël décampe, hein, soit détruit. C'est une volonté contraire au plan de Dieu, aux promesses faites à Abraham pour Israël. Alors, ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Fek. J'ai visité l'endroit, évidemment, c'était impressionnant. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ?» Alors, imaginez le climat spirituel qu'il y avait à Silo, où les Nodugaya, Ovni et Phinéas, et sans doute des tas d'autres, se conduisaient mal, où on salissait le nom de Dieu. C'est pour ça que je dis que c'est clairement comme aujourd'hui. Hein? Allons, alors, ils ont un remède miracle. On va aller chercher un fétiche, un talisman, hein, une pierre magique. Allons chercher à Silo, l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Mais c'est vraiment prendre Dieu pour un objet, hein, ça. Ça, c'est une insulte. Il n'y a pas de respect pour Dieu. On va chercher un objet, comme on promène un saint sacrement de l'Église catholique, on promène les reliques d'un saint, d'un mort, etc. En Bulgarie, j'ai vu beaucoup le culte des morts. C'est impressionnant, en orthodoxie. Alors, pratiquement, ce qui se passe, on remplace Dieu par un substitut. Une statue, un saint, une sainte, et tout le reste. Un substitut à la place de Dieu. Ben, vous pensez bien que Dieu est le créateur du monde. Les puissants maîtres de l'univers, quand ils voient ça, mais ils se foutent de moi. Ben, je vais les livrer à leur péché et à la peine de leur péché. Ils cherchent une bénédiction, mais ils ne l'auront jamais. C'est clair. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'Alliance de l'Éternel, des armées, l'Éternel des armées, c'est-à-dire des anges qui siègent entre les chérubins. Alors les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'Alliance. Quel toupet, hein! J'ai souffert, quand j'étais prêtre, en disant à mes responsables, mais vous rendez compte qu'on va dire la messe alors qu'on se conduit comme ça? Vous rendez compte qu'on parle de Jésus-Christ devant tout le monde et qu'on se conduit comme ça? Il faut que ça change. Comme a dit, vous pouvez choisir Luther, il ne voulait rien changer. C'est d'aujourd'hui. Et il y a des églises évangéliques, des églises protestantes, c'est la même chose. On ne changera rien. Et celui qui veut changer quelque chose, qu'il aille voir autre part. Je tends à actualiser le texte. Et je vous garantis, il y a moyen de s'étaler là-dessus. Hein. Je suis très bref là-dessus. Lorsque l'Arche d'Alliance, l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Vous imaginez, hein? Parce qu'ils ont l'Arche d'Alliance, ça y est, l'adrénaline. Vas-y, Nénès, on va gagner. Comme dans les croisades. Allez, go, avec Godefroy de Bouillon. on rentre dans Vienne, on pille, on viole et tout, on va à Constantinople, on fait la même chose, on arrive à Jérusalem, on fait la même chose, et on massacre juifs, musulmans, chrétiens. Tout ça dans une immense euphorie, et à la guerre 14-18. Dieu, famille, patrie, et de l'autre côté, God mit uns. Pourquoi est-ce que l'Europe n'est pas bénie aujourd'hui? Vous ne vous étonnez de rien. Il faut comprendre les choses selon la pensée de Dieu. On ne peut pas se moquer de lui. Et regardez, ils ont un toupet monstre, cet ovni Phinéas, ils sont là, tout près de l'Arche d'Alliance. Ben oui, c'est des prêtres, c'est des caïds, hein. Ça peut être un grand pasteur d'une église baptiste aux États-Unis, ça peut être un grand évêque de l'église épiscopale, ou d'une église méthodiste, qui entraînait le racisme. Ou ça peut être un super évêque avec une crosse et une mitre, et tous ses cardinaux alentour. Pourquoi pas? C'est la réalité, de toute façon. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Ils dirent : que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Ils crurent que Dieu était venu dans le camp. La phrase dit clairement que Dieu n'était pas là, dans le camp des Hébreux. Mais eux, ils crurent. Et les Juifs, les Hébreux, se dopaient en croyant que Dieu était avec eux. Se dopaient mentalement. On peut s'auto-suggérer des tas de choses et que ce ne soit pas la réalité, les amis. L'intégrité spirituelle permet, quand elle est vécue tous les jours, elle permet de savoir si on a désobéi ou si on a obéi. Et si on a désobéi, eh bien, on a honte, on est malheureux, on se présente à Dieu pour demander pardon, et on retourne à sa grâce, on retourne dans son amour, mais direct. On ne sait pas supporter d'être en rupture avec lui. Mais quand on n'a pas cette relation, on ne voit même pas la rupture, on ne voit même pas le problème. J'ai été baptisé, donc je suis béni. J'ai confessé Jésus-Christ, je suis béni. Ben, cours toujours. Croyez que Dieu se prend à tout ça. Alors, tous les deux, dans les deux camps, on prend des vessies pour des lanternes. Voilà. Alors, ils ont peur. Verset 8, malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ben, ils savent déjà quand même que de l'autre côté, il y a une histoire biblique. Il y a quelque chose. Déjà, l'Égypte a ramassé une raclée un jour. Ils disent, ben, on va encore ramasser la même. Mais ce n'est pas vrai, ils ne vont pas la ramasser. C'est les Hébreux qui vont la ramasser. Alors, fortifiez-vous et soyez des hommes, philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Donc, il y a des leaders qui sont courageux et qui disent aux Philistins, aux Palestiniens, de ne pas se laisser abattre et impressionner. Donc, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Et c'est Dieu qui le permet qu'ils ne soient pas dupes. C'est Dieu qui le permet à l'ennemi de voir que ceux qui croient qu'ils sont avec Dieu n'y sont pas. C'est Dieu qui le permet. Quand nous avons des problèmes avec quelqu'un d'hostile à l'Évangile, parfois c'est Dieu qui le permet, des sérieux problèmes. Parce que nous avons vécu tout un temps sans Dieu, Dieu permet que l'autre vienne nous mettre une dure épreuve de la part de Dieu. De la part de Dieu, par l'ennemi, par l'autre, qui n'aime ni Dieu ni nous. Et il faut bien se rendre compte que pour que cette colère de Dieu sur nous et cette absence de bénédiction revienne à un temps de grâce, il faut s'humilier, se repentir. Parce qu'on ne joue jamais avec Dieu. On doit apprendre dans notre vie à ne jamais jouer avec notre Seigneur Dieu et Jésus-Christ. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba environ 30 000 hommes d'Israël, de pied. L'arche de Dieu fut prise. Tac. Et les deux fils d'Ophni et d'Eli, Ophni et Phinéas, moururent. Un homme de Benjamin, la tribu de Benjamin, accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour. L'événement déchiré, la tête couverte de terre. Déchiré. Pourquoi ? Il les a déchirés. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Israël a offensé Dieu et que Israël n'est pas béni. Il déchire ses vêtements et se met de la terre dessus. C'est vraiment l'esprit de repentance, de deuil spirituel. Il faut savoir, les amis, qu'il y a des tristesses dans notre cœur qui sont bénéfiques, qu'il y a des deuils dans notre cœur, dans notre vie, qui nous amènent à une vie plus sainte. Ce n'est pas toujours du velours, la vie spirituelle. Ce n'est pas toujours du velours. Le Seigneur, dans ses gants de velours, a une main de fer. Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et dit, sans doute qu'il était dur de la feuille, moi ça commence, « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or Élie était âgé de 98 ans, 98, hein. Il avait les yeux fixes, donc il ne voyait plus et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. » C'est enfoui, hein. Et autrement, il y passait. Et il dit, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phinéas, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Toujours dangereux de prendre du poids quand on vieillit. J'ai manqué de tomber tout à l'heure, là, en balayant. Mais, parce que je vais t'opérer, je cherche à maigrir, je resserre toutes les ceintures, et je me suis rattrapé, mais j'aurais fait 20 kilos de plus, c'était crac, badaboum, j'étais bon pour rester dans le fauteuil ou dans le lit. Et donc, on prend du poids. C'est souvent un signe qu'on cherche à se protéger de certaines faiblesses, de certaines choses. On souffre et on n'arrive pas à régler et on prend du poids. Pourquoi ? On met des barricades sans s'en rendre compte devant la difficulté. Mais en fait, on les complique encore. Et il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinéas, était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, donc accouchement mortel, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point, car tu enfantais un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire de Dieu, bien sûr, est bannie d'Israël. » C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. » Est-ce que la gloire de Dieu peut être bannie des églises ? Oui. Oui. Lisez les sept églises d'Apocalypse au chapitre 2 et 3. On ne peut pas se payer le luxe de se moquer de Dieu. Ou on est avec lui, ou on est contre lui. Jésus l'a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Faites bien attention, relisez-les. Nous sommes dans un temps difficile, mais comme il y en a toujours eu, nous avons le choix de la foi ou de la religiosité de la façade. Alors, ce qui m'intéresse, c'est très marrant, c'est comment se comporte et ce qui va se passer pour les ennemis. Les Hébreux étaient ennemis de Dieu, tout en se croyant les bons, puisqu'ils entretenaient l'esprit d'adultère, de libertinage, de fornication alentour de l'Arche d'Alliance, du Temple, etc. Et qu'on laissait un peu tout faire, on faisait tout, en croyant qu'on était bénis, de toute façon protégés. Ça, d'accord, ils étaient ennemis de Dieu sans sans trop le savoir, ou en tout cas en sachant, en s'en fichant. C'est encore pire, ça s'appelle de l'iniquité. Mais maintenant, les ennemis. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Dans notre société, il y a beaucoup d'ennemis de Dieu aujourd'hui. Organisés. Il y a des systèmes de pensée, il y a des philosophes, il y a des gens qui font des campagnes pour être contre Dieu. Alors, voyons un peu ce qui peut se passer pour les ennemis de Dieu affichés, déclarés. On a vu pour les ennemis de Dieu camouflés, hypocrites. On va voir pour ceux qui sont affichés. Chapitre 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Vous savez qu'il y avait, dans cette région de Gaza actuellement, il y avait 5 principautés cananéennes, philistines, chacune avec un prince, forteresse, etc., des temples à Dagon, et des sacrifices humains, de la prostitution sacrée, etc. Et tout ça, ça tournait bien. Vous savez, c'est une peuplade qui venait de Turquie, quelques centaines d'années avant, des Hittites. Ils avaient l'industrie du fer, ils étaient beaucoup plus évolués techniquement que les Juifs. Hein? Et les Hittites sont descendus en Égypte, comme la dynastie pharaonique était très décadente, on se conduisait n'importe comment, on faisait des enfants entre frères et sœurs, tout a dégénéré. Pratiquement ce qui se passe, les Hittites sont venus, se sont glissés dans tout ça, un peu comme l'islam fait aujourd'hui en Europe, et puis ils ont pris le pouvoir par des mariages, des alliances, etc. Ils sont devenus les chefs de l'Égypte, et c'est comme ça qu'ils sont devenus ennemis du peuple juif qui était là. Ils ont fait souffrir les Hébreux en Égypte. Bon, les Philistins, c'est donc une civilisation très ancienne qui vient du centre et de l'ouest de la Turquie, qui a des siècles, de l'île de Crète, etc. Et c'est pas des apprentis. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, donc de la ville d'Asdod, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, il n'y restait que le tronc. Donc la statue était brisée. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon, Asdod, ne marchent point sur le seuil. Ben, là où elle a été brisée, quoi. Parce qu'ils ont peur. La main de l'Éternel s'appesantissait sur les Asdodiens. Il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Vous pouvez rire avec les hémorroïdes, mais moi j'ai vu. J'étais au service militaire et brancardier infirmier. Il y avait toute une chambre avec 40 lits, il n'y avait que des gars baraqués comme Jean-Christophe qui était en train de pleurer sur le lit. Parce qu'il était opéré des hémorroïdes. Hein. Tout en service. Et ils ne la faisaient pas belle. Hein. Et moi, je devais, vous connaissez la blague Hitler, je devais faire les soins. J'ai dû faire un peu de tout
en
ça.
En fait, en hébreu, hémorroïdes, ça n'existe pas. C'est des abcès. Et en fait, c'est suspecté d'être la peste bubonique.
De ?
C'est suspecté, en fait, d'être un épisode de peste bubonique.
Ah oui. Alors, ça c'est encore autre chose, c'est pire. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai connu des personnes qui se conduisaient mal et qui attrapaient, en plus des hémorroïdes, des furons à cet endroit-là. Hein, possible, après des fistules et tout. Une complication pour ces gens-là. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a pesanti sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Ils firent chercher et assembler auprès d'eux tous les princes philistins et dirent « Que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël ?» Ils n'en veulent plus. Les princes répondirent « Que l'on transporte à Gath. » Je suis passé aussi à Gath. C'est une colline, hein. Il y a des ruines, il y a de l'herbe, mais enfin, on n'a pas reconstruit là. Hein. Les Hébreux ne vont pas aller faire quelque chose là-dessus. Hein. Pour eux, c'est maudit. Hein. « Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël, et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. » Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Il y eut une grande consternation. Allez, de nouveau le même toin-toin. Alors, ils veulent envoyer l'Arche d'Alliance à Écrone, une troisième principauté. Mais lorsque l'arche, au verset 10, lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent les cris, ça y est, c'est la panique, hein. On a transourcé chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ils firent chercher et assembler tous les princes des Philistins, dire, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apesantait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Donc, il y avait des morts subites, et ensuite, pour les autres qui subsistaient, des misères. Ce qui fait que, eh bien, ils décident tous de renvoyer l'Arche d'Alliance. Chapitre 6. L'Arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent, que ferons-nous ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Ils répondirent, si vous renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il va y avoir des sacrifices de culpabilité. Le pays, au moment de l'Arche d'Alliance, était infesté de souris qui mangeaient toute la récolte. Une ruine économique. Et donc, ils vont faire des souris en or. Puis ensuite, ils vont faire des hémorroïdes en or. Et ils vont mettre tout ça dans un coffre à côté. Ah oui, c'est marrant tout ça, mais c'est pas si marrant que ça. Quand on a Dieu aux trousses, un athée le sait, hein. Un athée le sait. Quand il a poussé le bouchon trop loin, il dit, mais ça va jamais plus s'arranger. Il y a quelque chose. Je vais aller mettre des bougies. À Saint-Rita, à Saint-Pierre. Oh ! À Saint-Christophe, à Saint-Antoine. Et puis, après où ? Oh, je vais aller à Lourdes. Je vais aller à Saint-Damiano. Je vais faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et on court. Je connais tout ça, hein. Et alors, pratiquement, pas de l'avoir fait. J'ai fréquenté tous des gens qui m'ont confié tout ça. Et ce qui se passe, on est paumé. Je suis encore tombé sur deux, trois personnes catholiques, très sincères, hein, mais bon, ils ne connaissent pas Dieu pour deux sous. Je ne dis pas que tous les catholiques ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui ont vraiment une foi profonde. Eh bien, c'est des visions. Ils parlent avec le mari qui est mort. Ils parlent avec le tonton, la tata. Je laisse dire, moi, parce que je vais y retourner. Je prie, je réfléchis. Il faut que je dise des choses, pas beaucoup. Une bonne piqûre vaut mieux que 10 mauvaises. Il faut dire et faire réfléchir. S'ils veulent avancer, ils viendront, me rappelleront. Et pratiquement, ce qui se passe, on est à une époque où, de plus en plus, les gens ne se tournent pas vers Jésus, ni la Bible. Ils se tournent vers des visions, avec des dialogues avec les morts. Même des prêtres disent que quand un enfant meurt, il va venir vous revisiter. L'enfant va venir vous parler, vous consoler. Il vient de mourir, il va venir vous consoler. Même des prêtres dans les prêches le disent. Ils ouvrent la porte à l'occultisme dans le peuple catholique. Dans des paroles pareilles. Alors, voilà ce que les prêtres païens disent, eux. Faites, verset 5, des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. C'est pas leur Dieu. Il faut faire gloire. Alors, à un moment donné, moi j'ai eu ça, à 3h du matin, quelqu'un vient. Il se moquait de moi, il faisait du tarot chinois, etc., etc. Il était venu à la place où est Vincent, au culte, il écoutait tout, il niait tout dans son âme. Et puis un jour, à 2-3 heures du matin, Jean, toqué, j'arrive, je me mets dans le salon avec lui, terrorisé, Satan était au-dessus de moi et tout. Tu l'as toujours aimé, je lui réponds. Tu as tout fait pour qu'il t'apparaisse un jour. Je ne peux plus dormir, j'ai la terreur. Allez, je dis bon, allez. Si tu veux savoir hein, qui est le plus puissant, je te promets de prier jusqu'à 2h30, toute la nuit pour toi. J'irai coucher à 2h30. Après, tant pis pour toi si tu ne t'es pas converti. Alors, il groupillait jusqu'à 2h30, et moi j'allais dormir. Et tout le reste de la nuit, ça y craque, badaboum, ça recommençait. Il ne s'est jamais converti, le Gugus. Pourtant, moi, je l'aimais bien. Il s'est jamais converti. C'est incroyable à quel point on peut être ennemi de Dieu, délibérément. Alors, peut-être sera-t-il d'appesantir sa main sur vous et vos dieux, sur vos dieux, votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? Donc, les prêtres de Dagon disent ça au peuple. Pourquoi vous rendriez votre cœur plus dur encore que les Égyptiens ont fait à un moment donné, à l'époque de Moïse? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux? Ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, faites un char tout neuf. Allez, menuisier au boulot. Bûcheron, menuisier, etc. Prenez deux vaches galettes qui n'aient point porté le joug, donc qui ne sont pas dressées, qui ne savent pas comment on va à gauche, à droite. Adelez les vaches au char, ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles, donc séparez-les des veaux. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char, vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour les péchés. Donc, sentiment de devoir payer quelque chose à Dieu. Hein. C'est totalement ça quand je suis arrivé à l'hôpital à Liège pour un homme qui avait son troisième infarctus. Suite à avoir prié pendant la nuit, je savais que je devais aller le trouver, et qui me dit, mais pasteur, vous venez pas pour que je guérisse quand même. Avec tout ce que j'ai fait, le trafic d'armes et tout ce qui coule au bout de ma main pour des siècles, les gens que j'ai tués, j'ai demandé à Dieu de crever. Il m'a dit ça comme ça devant tous les sauteurs. Mais je dis, vous imaginez que Dieu est comme vous? Dieu n'aime pas le péché, il aime le pécheur. Vous projetez sur Dieu ce que vous êtes. Vous l'offensez encore une fois de plus. Alors, comment ça ne m'a jamais dit ça? Alors, j'ai expliqué sur la croix quand Jésus pardonne au brigand et lui dit, aujourd'hui, tu es dans mon paradis. Alors, j'ai dit, tu veux être pardonné? Il a accepté. Alors, pratiquement, vous voyez, chez les païens, ils savent que la colère de Dieu peut amener la mort. Il faut payer un prix. Dans le cas ici du brigand, il voulait payer en donnant sa vie, en mourant. Pourquoi des gens Fatima marche sur les genoux pendant 3-4 km sur les cailloux qui sont ensemble. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui remplissent les troncs dans les églises et cathédrales qui mettent plein de sous dedans pour payer leurs péchés? Mais il n'y a que Jésus qui a payé. Pourquoi est-ce qu'un musulman, même de bonne volonté, j'ai eu ça avec un imam, tu m'excuses, je vais faire ma prière. Quand il est fini, je lui dis, écoute, tu es fidèle, tu crois, tu es sincère, et je lui dis, c'est pourquoi tu pries? Mais c'est rare, pour la purification de mes péchés et des gens de la mosquée et de ma famille. Tu as raison, mais tu te trompes. Je dis, la purification des péchés a déjà été faite à la croix. Tes prières ne servent à rien. Je pouvais lui dire, je l'aimais comme un frère. Parce que vraiment, il était sincère, le gars. Sincèrement dans l'erreur. Sincèrement sur le chemin de l'enfer. Oui. Alors, ici, vous avez, il y a quelque chose qui se passe. Dieu fait parler les prêtres, qui sont ennemis de Dieu, pour leur dire, ben, il faut se repentir. Et là, on va mettre tout ça. Vous prendrez, verset 8, l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char, vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Voilà-t-il bien que les ennemis d'Israël font des offrandes aussi à l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Rendez compte. Ça préfigure quelque chose, les amis. Ça préfigure que tous ceux qui sont contre Israël maintenant, tous ceux qui sont contre la foi chrétienne, peuvent un jour se repentir. Et il y a des textes dans Isaïe, au chapitre 18-19, il y a des psaumes qui le montrent. Il est possible que quelqu'un qui est très dur contre Dieu soit retourné comme une crêpe. Y compris le peuple d'Israël, parce qu'il est aussi un peuple dur. Et donc, au verset 8, qu'est-ce qu'il y a? Puis vous la renverrez, elle partira. Donc l'arche va partir avec les deux vaches qui n'ont jamais été dressées, qui sont un peu fofolles, les génisses, qui viennent juste de faire leur premier veau. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Eh bien, effectivement, elle passait à Beth-Shemesh. Le char est passé par là. Et moi, je logeais là. j'avais ma fenêtre à 25-30 mètres, il y avait la vallée, et là où la pierre, on a sacrifié les vaches, on a démoli le char. Alors, j'ai pas fait exprès, je vous le dis. J'étais là, moi, je pouvais regarder. Et pratiquement, ce qui se passe, eh bien, c'est que l'Arche d'Alliance était chez les Juifs. Mais le problème, c'est que l'Arche d'Alliance qui est chez les Juifs, ça crée un problème. Autant que la Bible crée un problème chez les chrétiens. Autant que la Bible crée un problème dans la chrétienté, dans ce qu'on appelle les chrétiens en général. L'Arche d'Alliance provoquait un problème en Israël. C'est pour ça que j'ai pris ce sujet aujourd'hui. On a quelque chose, le plus précieux que Dieu nous a donné, eux c'était l'Arche d'Alliance, nous c'est la Bible, et qu'est-ce qu'on va en faire? Ben regardez bien. Qui sont les ennemis de Dieu pour finir? Les Philistins ou le peuple de Dieu? Vous savez, Isaïe, tous les prophètes avaient un sacré boulot. Hein. Et aujourd'hui, c'est la même chose, c'est un sacré boulot. Alors, ces gens firent ainsi, prirent deux vaches qu'ils allaitaient, ils attelèrent au char, ils enfermèrent les petits dans la maison, ils mirent sur le char l'Arche d'Alliance, le coffre avec les souris d'or et les figures de leur tumeur, les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh, elles suivirent toujours la même route en mugissant. Ben oui, elles n'avaient pas de klaxon sur le char, donc il fallait bien. Elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. On arrive, on revient en Israël. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Ben oui, parce qu'ils étaient tout à fait bavards. Là, ils commençaient à comprendre que rien n'était arrivé par hasard. Dieu s'était servi des Philistins pour mettre la raclée à Israël et éliminer Ophni et Phinéas et punir Élie pour sa complaisance pour tous les péchés dans le lieu sacré. Dieu s'était servi d'eux, mais en même temps, Dieu ne se laissait pas utiliser par les Philistins. Maintenant, Dieu renvoie son arche d'alliance où il y a les tables, les 10 commandements, la verge d'Aaron. Il y a de la manne, du désert, dedans. C'est toute l'histoire sacrée d'Israël qui est là, dans cette alliance. Il y a le couvercle en or, les chérubins, de cèdre couvert d'or. C'est là que Dieu se tient, pour les Juifs. Plus maintenant, mais en attendant, c'est là. Puisque maintenant, Dieu se tient en Jésus-Christ. Mais ce qu'il y a, il est clair que quand elle arrive, vous allez voir, au verset 13, ces habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée, ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant, ils sont tout contents. Parce que c'est la vraie foi. Le char arriva dans les champs de Josué, de Beth-Shemesh, et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre, on fendit le bois du char, on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel, et les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Bien sûr, les princes des Philistins qui n'étaient pas loin se disent, bon, on retourne, nous, on a fait ce qu'on devait, pourvu qu'il ne nous arrive plus rien. Dans la fin du verset 18, ça c'est quand est-ce la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. Quand on va visiter Israël, c'est étonnant des fois, les confirmations de l'Écriture. On n'est plus dans l'histoire de Perlin-Pimpin, Saint-Nicolas et tout le reste, hein, quand on va là-bas. Quand on a la Bible et qu'on circule et qu'on va voir. Et qu'on est entouré d'amis qui aussi ont été piochés dans la Bible régulièrement. Ben là, hein, là, on ne peut plus revenir comme avant. Hein. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh, c'est bizarre. Il venait de frapper les Philistins. Il va d'abord frapper les Israéliens par les Philistins. Il frappe les Philistins. Et il frappe maintenant de nouveau les Juifs. C'est quand même bizarre, ça. Mais qu'est-ce qui se passe, donc? Lorsqu'ils regardèrent l'Arche de l'Éternel, il frappa, dans certaines versions, 50 000, dans d'autres, 70 hommes parmi le peuple. Le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Pensez qu'aujourd'hui, quand Jésus va revenir, que la grosse part de la chrétienté va faire partie de la tribulation, des tribulations. Et que cette église qui a falsifié la parole de Dieu, qui en a retiré, qui en a ajouté, va rester dans la tribulation avec Satan. Pas la même chose? Pourquoi? Parce que simplement, ils ne sont pas attachés en vérité à Dieu et à sa parole. Ce sont des religieux. Point. C'est pas la même chose. des religieux qui suivent leurs instincts. Ils recherchent leur plaisir dans la religion. Ils écoutent leur peur dans la religion, mais ils ne sont pas en quête du vrai Dieu vivant pour le rencontrer et l'aimer. Les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui peut subsister en présence éternelle de ce Dieu saint ?» Ah ! Donc il y en a un dans la bande, sûrement Samuel, qui dit « On a affaire à un Dieu saint. » Ça y est, on a recommencé à faire du cinéma, ça nous coûte cher. Et qui peut rester en présence de... Pas de péché en présence de Dieu, les amis. Vous me direz, mais aujourd'hui, mais je suis pécheur, je ne suis pas bien, hein. J'en ai fait des... Et j'en ferai encore des péchés. Oui, d'accord. Le Seigneur Jésus va te demander, tu les aimes ou tu les détestes? Je vois ton cœur, moi. Toi, tu les aimes, et ça te plaît de rester dedans, en même temps tu veux aller au paradis. Toi, tu ne les aimes pas. Et toi, tu me cherches. Et moi, je peux intervenir pour toi. Pour que ton péché soit brisé par le sang de Jésus. Parce que Dieu est vivant, il voit tout. Il ne regarde pas à l'apparence, il voit au cœur. Donc, voilà ce qui se passe. Ils se rendent compte que Dieu voit les cœurs, voit les consciences, les vies, jour et nuit. Et vers qui doit-elle monter en s'éloignant de nous? Ça y est, ils ont compris, on ne peut pas supporter la présence de la Dieu éternel, il faut... Ils sont dans le même cas que les Philistins. Il peut arriver que quelqu'un qui se dit chrétien dise ceci. Ah non, je ne peux plus entendre la parole de Dieu. Oh, je ne peux plus venir au culte. Oh, je ne peux plus aller à ça. Ah non, il me fait peur ce Dieu-là. Il m'en demande de trop. Oh, je vais bien voir quelques mois, je ne viens plus, puis après on verra. Mais c'est ça là. Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath Jearim. J'ai vu ce coin-là. C'est pas tout près, hein, par rapport à Beth-Shemesh. Et pour leur dire, les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez, faites-la monter chez vous. Elle va y rester longtemps, hein, là. Kiriath Jearim, ils vont vraiment accueillir l'arche de l'Alliance, et ils vont être respectables, hein, et respectueux. C'est évident, il faudra encore un certain temps que David prenne la décision d'aller la chercher pour l'amener à Silo, mais il y a des hommes qui vont toucher l'arche de l'Alliance, qui n'étaient pas des prêtres, n'étaient pas des lévites. Il y a eu des attitudes encore impures, il meurt. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que David est fâché contre Dieu. Il allait encore quelques années dans Kiriath Jearim. Et puis c'est plus tard, qu'il va la rechercher avec tous des gens, sans doute, qui se sont préparés spirituellement. Hein? Et alors, à ce moment-là, on l'amène à Silo. Les amis, de tout cela, moi, je veux dire une chose, c'est que nous avons la Bible. Ceci est là. C'est un paquet de papier. Que ce soit sur ordinateur, téléphone, tout. Mais la parole révélée de Dieu est dans ce papier, sur ce papier. Elle est sacrée. C'est sacré. Même si je ne comprends pas, Dieu peut m'aider à comprendre au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je suis humble et que je cherche et que je lui demande conseil. Et il voit si je triche ou pas. Et s'il voit que mon cœur est béni, que mon cœur s'incline pour le rencontrer, il va changer ma vie. Il va transformer mon être. Je ne mourrai pas en face de lui, pas plus qu'en face de l'Arche d'Alliance que je verrai un jour. Je ne mourrai pas en face de Jésus. Je suis dans la vie. Il me garde dans sa vie, dans sa protection, avec ses anges. Il me conduit jusqu'à lui. Je vous souhaite d'être réellement à la hauteur de l'appel que Jésus fait pour vous, du sacrifice, de l'amour de Jésus. Jésus a un immense amour pour nous entraîner. Il faut tomber amoureux du Seigneur. Il faut tomber sincèrement amoureux, sans regret et sans retour du Seigneur Jésus et de notre Père des cieux. Et là, nous n'avons pas à craindre. nous pouvons avancer avec foi et avec paix et avec joie et sous sa bénédiction. Dieu n'a pas promis qu'il n'aurait jamais des ennuis. Il a promis que j'aurai la vie éternelle et que j'aurai la paix du cœur en lui, malgré les ennuis. Ça, c'est différent. Que Dieu nous bénisse tous. J'ai besoin, autant que vous, de la parole que je viens de vous dire. Autant. Amen.